إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc comme je voulais préciser, l'intitulé de cette conférence est le terrorisme. Pour définir ce mot, déjà ça c'est une chose à comprendre, c'est que souvent dans les discussions, dans des dialogues, les gens ne se comprennent pas parce que à la base ils ne définissent pas les mots et les sujets sur lesquels ils divergent ou ils discutent ou ils dialoguent. D'où l'importance d'abord de définir. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'il est voulu par le mot terrorisme ? Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins religieuses, idéologiques ou politiques. C'est aussi l'usage de la violence et de la peur. Dans l'histoire du terrorisme, on retrouve beaucoup d'organisations politiques ou criminelles, que ce soit des partis de gauche comme de droite, de groupes nationalistes, révolutionnaires ou religieux, voire même des États. Le grand savant, le Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, le grand mufti du royaume d'Arabie Saoudite, Hafidhahullahu Ta'ala, dit « Tuer et terroriser d'innocentes personnes, la destruction des propriétés ne sont pas admis en islam. Attribuer tous ces horribles incidents à l'islam est injuste. Les musulmans doivent dire la vérité, dévoiler les faussetés et informer tout le monde que l'islam est une religion de droiture, d'amélioration et de progrès. L'islam est la révélation finale qu'Allah a choisie pour l'humanité afin de la guider de l'obscurité vers la lumière. » Voilà une réponse simple, clair, de la part de ce grand savant de l'islam, le Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, Hafidhahullahu Ta'ala. Le grand savant, le Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdillah Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala, dit « Notre religion n'est pas une religion appelant à l'anarchie. Notre religion est une religion basée sur la discipline, une religion ordonnée, calme et sereine. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ou l'idée qu'ils se font de l'islam, je parle de personnes bien pensantes, des personnes qui croient défendre l'islam, qui croient rendre service à l'islam, ils s'imaginent, parce qu'ils ont un côté révolutionnaire en eux, anarchique en eux, anti-loi en eux, ils pensent que l'islam appelle à cela. Ça, c'est faux. C'est une idée qui est fausse de l'islam. Jamais aucun savant de la sunna n'a expliqué l'islam ainsi. Ça, ce sont les explications données par des prêcheurs qui, au nom de l'islam, disent le contraire de l'islam. L'idéologie, prenant le terrorisme, est celle des Khawarij. Al-Khawarij, c'est le pluriel de Khariji. Ce sont ceux qui se révoltent, ceux qui sortent, ceux qui quittent. Et ce sont ceux qui se sont soulevés contre l'autorité du prince des croyants, du troisième calife de l'islam, du quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, mais qui sont déjà apparus avant et qui ont causé du tort et ont même fini par assassiner Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le troisième calife de l'islam. Et ils se sont soulevés contre Ali, radiallahu anhu, et il y a eu cette grande guerre, cette grande bataille entre l'armée des croyants, l'armée de Ali, radiallahu anhu, contre l'armée des Khawarij. Et Ali, radiallahu anhu, les a anéantis jusqu'à en laisser qu'une petite poignée qui continueront plus tard à faire du mal. Une secte qui nous a été citée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète en a parlé avant même qu'ils apparaissent. Et il nous les a décrits, alayhi salatu wassalam. Et les ulama de la sunna de toute époque ont mis en garde contre cette idéologie et ceux qui la prônent et ceux qui la suivent. Et de même que certains savants, et ça c'est du fiqh dans la religion, dans certains ouvrages sur les mérites du Coran, de la récitation du Coran, de la bienséance, comment se comporter face au Coran et son étude et sa récitation et les règles de Tajwid, à la fin, il cite des hadiths concernant le Khawarij. Parce que ce sont des gens qui sont connus pour s'adonner à la lecture du Coran. Mais le Coran ne dépasse pas leur gosier. Il y a des mots comme ça, je n'arrive pas à les retenir. Leur gosier, leur gorge. Hein? C'est donc que à la langue, mais ça n'atteint pas le cœur. Et qu'ils sont les pires des créatures. Et combien de gens sont attirés par ces lecteurs du Coran et ces personnes qui s'adonnent au Coran, qui à la base est une bonne action, une bonne chose. Mais il y a un leurre là-dedans. Ils attirent par cela, volontairement ou involontairement, les gens se font avoir par cette apparence, mais derrière il y a un grand mal. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam met en garde les compagnons. L'un d'entre vous va mépriser sa lecture du Coran par rapport à leur lecture, son adoration par rapport à leur adoration, sa prière par rapport à leur prière. C'est-à-dire qu'ils font bien plus. Mais au final, ils quittent la religion plus vite qu'une flèche ne quitte l'arc. Et c'est pour cela que certains savants font cette remarque, parmi eux, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, qu'une bonne chose qu'on voit l'augmentation des écoles ou des cercles d'études du Coran, de la mémorisation du Coran, d'apprendre le Coran, dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, on le voit, beaucoup de gens retournent à l'apprentissage et à la mémorisation du Coran, c'est une bonne action, une bonne chose. Mais une erreur de commise, c'est de s'arrêter là. Et d'oublier ce pourquoi le Coran, il a été révélé. Ce n'est pas seulement pour sa récitation ou pour embellir sa voix ou pour que les gens disent il récite bien, il a une belle voix, ou de rester du temps et du temps dans l'apprentissage des règles de la lecture. Cet excès qu'on retrouve chez certains. Mais au final, c'est une incompréhension totale de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils récitent. Mais avec cela, ça doit être accompagné par l'explication, la méditation des versets coraniques et la mise en pratique à la fin de ces versets coraniques. Et le Coran est soit un argument en ta faveur le jour du jugement dernier ou alors contre toi. Donc combien de gens, ils pensent à la quantité qu'ils vont mémoriser? Ce n'était pas la situation des Sahaba, qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Ils apprenaient peu, mais parce qu'eux, ils s'adonnaient à la qualité. 10 versets coraniques. Ils n'attaquaient pas 10 autres versets tant qu'ils ne les ont pas appris, compris et pratiqués. Ils assemblaient le savoir et la foi ensemble. C'est ça le plus important. Ce que tu sais, tu le pratiques. Ce n'est pas seulement un récipient, tu le remplis, mais il ne sait pas ce qu'il a. Donc l'idéologie prenant le terrorisme est celle des Khawarij, qu'on retrouve chez les sectes contemporaines, c'est-à-dire de nos jours, de notre époque, qui sont liées à la secte se nommant les Frères musulmans, créée en 1928 en Égypte par un certain Hassan al-Banna, qui est né, je crois, en 1904 et mort en 1949, assassiné en Égypte, dans son pays. C'est le fondateur de cette secte égarée qui a contribué largement à faire revivre l'idéologie des Khawarij, la secte des frères musulmans, et ils se font appeler le groupe des frères musulmans parce que, même si les suiveurs ne savent pas les détails, c'est une ignorance de leur part, parce qu'ils se considèrent les seuls musulmans. Et quiconque n'entre pas dans leur mouvement, dans leur groupe, n'est pas musulman, n'est pas considéré comme musulman. Donc, ceux qui iront dans les extrêmes, qui dépasseront même le groupe mère, le frère musulman, c'est parce qu'ils ont appris ces choses-là dans cette secte-là. Parmi ces sectes liées, ils sont pratiquement tous liés à la secte des frères musulmans, il y a Hizb al-Tahrir, qui est fondé par un Jordanien, je pense, dans les années 50 ou les années 60. Ils sont installés en Angleterre. Ils ont un centre, ils ont des représentants. Ils appellent au califat. Ce sont les gens qui disent qu'ils appellent au califat. Je ne sais pas si leur centre est encore ouvert. Allahu a'lam. En Angleterre, ils sont connus. Hizb al-Tahrir. Fondée en 1953. Il y a aussi l'organisation de l'Académie militaire, fondée en 1968. Le groupe islamique, Al-Jama'a al-Islamiyya. Des noms pour certains, ils ne connaissent pas, ils ne les ont pas entendus. Les anciens, ils entendaient parler. Les Khawarij, de temps à autre, ils apparaissent, même si les noms diffèrent. Mais le procédé est le même. Groupe islamique fondé en 1970. Le groupe Tekfir et Hijra, 1971. Le groupe du djihad, Jama'at al-Jihad, que Cheikh Mouqbil a appelé Jama'at al-Fasad, le groupe de la corruption, qui a été fondé en 1979. Le groupe des Sururiya, en 1982, ça vient de cet homme qui est encore vivant. Il est en Angleterre, réfugié en Angleterre, et qui avant, il était en Arabie Saoudite. Avant cela, il était au Yémen. Je ne sais pas s'il est d'origine irakienne ou syrienne. Et qui a fondé son groupe, c'est-à-dire qu'il a voulu faire passer l'idéologie des frères musulmans comme étant de la salafia, un maquillage. Et leur fondateur, il s'appelle Mohamed Sourour Zain El Abidine. Mohamed Sourour Zain El Abidine, il est encore vivant, il est en Angleterre. Le groupe des Sauvés du Feu, 1985. Al-Qaïda, okay, bon, ça, on se rapproche un peu de nos années. 1988, avec Ben Laden et ceux qui étaient avec lui. Le groupe du Califat, 1992. Et Daesh, 2013. Et il y en aura d'autres. Et les nouveaux te font oublier ceux qui ont précédé. Subhanallah. À chaque fois, une fitna arrive et elle prend de l'ampleur jusqu'à te faire oublier les fitnas qui sont passées. Donc des mouvements, il y en a eu. Là, on parle pour parler de l'époque grégorienne, du XXe siècle. On parle du XXe siècle. Et début 21e. Ça, c'est à titre d'exemple. Il y a aussi, en Afrique, un mouvement pareil qui s'appelle Boko Haram. Hein, qui est au Nigeria. C'est ça, c'est au Nigeria, je pense. Au Nigeria. Boko Haram, pareil. C'est la même idéologie. C'est la même idéologie. La plupart de ces mouvements qu'on a cités, ils sont tous en Égypte. Qui a été dans le siècle passé un endroit qui a beaucoup beaucoup abrité cette idéologie de Khawarij. Ça, ce sont les mouvements ou les partis ou les groupuscules. Et leurs idéologues principaux. Le groupe il se fait pas tout seul. Il y a des gens derrière. Hassan al-Banna, mort en 1949. À ne pas confondre avec le grand savant, le cheikh Hassan al-Banna, qui est toujours vivant, hafizahullah ta'ala, qui est de la famille. Ils ont il y a un lien de famille avec la famille de al-Banna, le fondateur des frères musulmans, mais que c'est deux idéologies complètement différentes. L'un a fondé un mouvement d'égarement, et Hassan Abdel Wahhab al-Banna, hafizahullah, qui est au Caire, qui est âgé de près, je crois, 93 ans, Hafizahullah Ta'ala, très, très âgé. Hafizahullah Ta'ala est connu pour son attachement à la sunna, à la salafia et au droit chemin. Hafizahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve. Abu al-A'la al-Mawdoudi, mort en 1979. Abu al-A'la al-Mawdoudi est un indo-pakistanais. Il est né, je crois, en 1901, comme ça. À l'époque, le Pakistan n'existait pas. Le Pakistan, le Bangladesh, ça n'existait pas, c'était l'Inde. Ces pays-là n'ont pas pratiquement que 70 ans. À peu près 70 ans qu'ils ont. Depuis les années 1947-1948 qu'ils ont été fondés. Sinon, c'était un seul pays, c'était l'Inde. D'accord ? Donc, et puis après, lorsque le Pakistan a été fondé, il était devenu pakistanais. C'est le fondateur de Al-Jama'a al-Islamiyya en Inde et au Pakistan. Lui aussi, c'est un des idéologues et qui a fait propager les idéologies des Khawarij. Sayyid Qutb, un autre Égyptien, et qui est mort en 1966. Et lui, il était né, si je ne me trompe pas, en 1905-1906. Sayyid Qutb, qui est l'idéologue le plus célèbre des Khawarij. Et avec ses écrits qui ont beaucoup contribué à la propagation de l'idéologie Khawarij. Abdullah Azzam, mort en 1989. Abdullah Azzam était un Jordanien d'origine palestinienne. Et c'est lui qui a beaucoup appelé à l'époque au djihad en Afghanistan et qui a fait connaître les problèmes qui se passaient en Afghanistan. Mais Étant donné qu'il était membre actif des frères musulmans, il a profité de cela pour propager son idéologie là-bas et aussi être la cause de beaucoup de mal avec les mouvements de Khawarij. Et c'est pratiquement, si on peut dire, le père spirituel de tous ceux qui suivent Al-Qaïda. Ça, c'est Abdullah Azzam. Et il est mort comment? C'est les règlements de compte entre les mouvements et les partis. Et ces partis-là se battent pour le pouvoir, qui va prendre le pouvoir, de quel groupe il est, et ainsi de suite. Et tous les coups sont permis, wal'iyadu billah. Et lui, il allait au Jumu'ah, une bombe a été mise dans sa voiture. Donc, là, un vendredi, et ça, il est mort là-dedans. Oussama Ben Laden, mort en 2011. Bon, lui, c'est un Saoudien. Bon, la famille, elle est connue, Ben Laden. C'est une famille, son père ou son grand-père, c'est des grands promoteurs qui sont dans l'immobilier. Et ils sont connus aussi parce qu'ils avaient les contrats de rénovation des lieux sacrés, de la Mecque et de Médine. Donc la société Ben Laden, elle est connue. Et donc c'est une famille très très riche dont est issu ce personnage, Oussama Ben Laden, qui a sali le nom de sa famille. Et qui est venu avec ses richesses pour développer et propager l'idéologie des Khawarij de Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri, qui était le bras droit de Ben Laden, un Égyptien qui était dans les prisons égyptiennes, qui a participé plus ou moins à l'assassinat de l'ancien président d'Égypte, Anwar al-Sadat. C'était en 1981, si je ne me trompe pas. C'est ça? Non, vous ne savez pas? Khair, Inch'Allah. Donc, je me débrouille avec ma propre mémoire. Inch'Allah. Ayman al-Zawahiri, qui, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il est devenu. Après la mort de Ben Laden. Mais voilà, c'est même peut-être lui qui a dirigé Ben Laden. Al-Zarqawi. Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui lui était un Jordanien et qui était en Irak, et qui est mort en Irak en l'année 2006, etc. Donc ça, c'était à titre d'exemple. Hein. La liste n'est pas exhaustive. Hein. C'est à titre d'exemple. Le grand mufti d'Arabie, Cheikh Abdelaziz al-Sheikh Hafidhahullah, a dit « Le terrorisme de Daesh et d'Al-Qaïda est l'ennemi numéro un de l'islam. Même si ces terroristes n'avaient pas touché les terres de mécréance, l'Europe ou l'Amérique ou l'Australie ou autre pays, c'est l'ennemi numéro un de l'islam. Parce que ce sont des khawarij dont les États musulmans se doivent de combattre et de réfuter. Et leur première cible à ces mouvements de Khawarij, ce sont les musulmans eux-mêmes. On ne peut compter le nombre de musulmans tués par ces Khawarij. Wallahu al-musta'an. Mais comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, les meilleurs des hommes, ce sont ceux qui meurent tués par des Khawarij. Et les pires des morts sous ce ciel, ce sont leurs morts à eux. C'est pour cela que l'on met en garde et on ne cessera de le répéter contre le terrorisme, son idéologie, ses auteurs, ses partisans et ses défenseurs. Les écrits de Sayyid Qutb qui ont beaucoup été propagés après sa mort en 1966 par son frère Mohamed Qutb, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et Mohamed Qutb n'a pas rendu service à son grand frère. Parce que Mohamed Qutb a eu l'occasion d'être conseiller, a eu l'occasion de voir les critiques et les réfutations contre les erreurs et les gravités de son frère, Sayyid Qutb. Et il a continué à propager ses livres sans rien corriger. Non seulement il les propage, et deuxièmement, il ne les corrige pas. Une grande complicité. Mais il se cachait derrière. C'est un dépôt. Je n'ai pas le droit de toucher un travail déjà fait. Et je ne sais quelle autre parole. Mais en réalité, c'est parce qu'il est complètement d'accord avec son frère. Mais lui, il a propagé à sa manière, comme on pourrait dire, avec diplomatie. Et son travail, c'était de travailler sous terre, jusqu'à qu'on voit le résultat de son travail de nos jours. Wal-iyadu billah. Les écrits de Sayyid Qutb, à la base des mouvements takfiri du XXe siècle, sont à l'origine des doctrines qui guident les actions terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh. Le terrorisme n'a pas de religion. Le terrorisme n'est prôné que par les gens du faux et de la déviation, les gens de l'innovation et de l'égarement, peu importe leur nom. Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda, Nusra, Taliban, Frères musulmans, et ainsi de suite, quel que soit leur nom. Ces gens ne respectent aucun pacte et ne les considèrent pas. Ils font croire au début qu'ils sont en paix et ensuite ils trahissent. Cette trahison et cette traîtrise fait partie des plus grands péchés en islam. Ceci est un crime et de l'injustice interdit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui agissent ainsi ont sali l'image de l'islam, car affiliés à l'islam et agissant au nom de l'islam, et ont ouvert une porte du mal sur l'islam. L'islam est une religion de paix et non de terreur. Alors, il y a quelques décennies, ça parlait la Palestine, la Palestine, la Palestine. Ils ont fait les actions qu'ils ont faites, soi-disant au nom de l'islam et pour l'islam. Aujourd'hui, même la Palestine, tout le monde l'a oublié. Maintenant, il y a la Syrie, il y a l'Irak. Il y a la Libye, il y a. Et tous ces réfugiés, toutes ces centaines de milliers de morts. Quel service ils ont rendu? Quel service ils ont rendu? Allahul Musta'an. La hawla la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Ces terroristes ont sali l'image de l'islam, de la sunna, de la salafia. Hein? Ils ont sali le nom de l'islam avec leurs agissements. Ça n'a pas suffi. Il fallait encore plus de détails. Et ils ont sali le nom de la sunna. Parce qu'après, ils se sont dit, on est musulmans, mais on est dans la sunna. Et puis, ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils ont sali le nom de la salafia. Subhanallah. Du mal sur du mal sur du mal. Ils ont sali l'image du djihad, jusqu'à que beaucoup ne savent même plus qu'est-ce que veut dire le mot djihad. Et certains se sauvent de ce mot en pensant que c'est quelque chose de mal. Wal-iyadu billah. Tout ça à cause de qui? À cause de ces gens qui prônent des termes et les salissent, les entachent. Et allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela et qu'est-ce qui est visé par cela. Wallahu al-musta'an. Ce qui a contribué à encore plus d'incompréhension chez les musulmans, alors que dire chez les mécréants? On voit des gens, ils disent, ah, mais comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas, et ainsi de suite. Mais chez les musulmans, il y a des gens qui ne comprennent pas. Subhanallah. Oui, chez les musulmans même, il y a de l'incompréhension. Comment voulez-vous qu'il n'y en ait pas chez les mécréants? Subhanallah. Si les musulmans eux-mêmes, parmi eux, il y en a qui sont perturbés, ils ne savent même plus où est-ce qu'il est le vrai du faux, alors ne soyez pas étonnés que des mécréants ne comprennent pas. C'est tout à fait logique. Subhanallah. Comme l'a bien précisé le grand savant, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, le grand muhaddith de Médine, hafidhahullahu ta'ala, dans quelle raison et dans quelle religion la destruction et les attentats sont un djihad? Réveillez-vous les jeunes. Ça, c'est un écrit, un livre écrit par le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala. Une question que chacun se doit de se poser. Dans quelle raison et dans quelle religion la destruction et les attentats sont un djihad? Réveillez-vous les jeunes. Le grand savant, le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidhahullahu ta'ala, a dit: nous, les vraies personnes qui suivent la salafiyya, les vrais prétendants à la salafiyya, réfutons ces terroristes avant que vous les réfutiez et parliez sur eux. Nous blâmons leur voix, de même les savants de l'islam avant nous ont blâmé leur voix depuis longtemps. On a des gens qui se réveillent à la dernière minute. Pourquoi les savants n'ont-ils pas? Ça, c'est les phrases, je ne sais d'où elles viennent. Les savants ont déjà parlé, mais lui, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il n'est pas en relation avec les savants. Il ne revient pas aux savants. Il ne lit pas les ouvrages des savants. Il n'écoute pas les audios des savants. Puis il dit, pourquoi les savants n'ont-ils pas parlé? Subhanallah. Et dans toutes les époques, les savants ont mis en garde contre cela. Ils sont réprimés dans notre religion qui est l'islam. Donc, vous ne devez pas affilier ces gens à nous, ni imputer leurs actes à l'islam. Certes, l'islam et les musulmans véridiques sont innocents de ces gens et de leurs actes comme attentats, meurtres, assassinats, etc. Et ils les désavouent totalement. Un des grands moyens pour lutter contre ce terrorisme présent chez certains musulmans est de revenir vers les savants connaisseurs du Coran et de la Sunna avec la compréhension et la méthodologie des salafs, des pieux prédécesseurs, pour qu'ils leur transmettent la bonne éducation. Mais les Khawarij ont déjà préparé le terrain de leur côté et ils ont sali l'image des savants pour que ces jeunes ne retournent pas un jour aux savants. Quand ils vont entendre les noms des savants, ils ont déjà un a priori sur eux. Donc ils ne viendront pas à eux. Ce sont des gens qui sont à la botte des gouvernants, des sultans. Ce sont des gens qui sont tout le temps avec les sultans. Ils se fichent de ce que vivent les pauvres personnes opprimées et frappées injustement. Ils se fichent de savoir quel problème et quel souci vit la communauté. Ils vivent dans des palais et ainsi de suite. Et subhanallah, pour celui à qui Allah lui donne une bonne vue. Ces savants qu'on traite ainsi, il y en a peut-être parmi eux qu'Allah les a enrichis dans ce bas monde. Alhamdulillah, ils ne se cachent pas de ce qu'Allah leur a donné. Comme d'autres personnes qui ne sont pas savants, Allah les a enrichis. Mais que dire lorsqu'on parle de savants qu'Allah n'a pas donné de richesse matérielle et qui vivent dans des petites maisonnettes, subhanallah, et qu'on parle d'eux en disant qu'ils vivent dans des palais. Et au même moment, les leaders, les prêcheurs, que eux retournent vers eux, eux réellement, on les retrouve vivre dans des palais. Et on les retrouve même riches. Et on se pose la question, comment ils se sont enrichis alors qu'ils ne l'étaient pas avant d'être prêcheurs. Mais c'est clair que les collectes dans les mosquées, dans les associations et dans... Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui entre. Où est-ce que ça va tout cet argent? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ils passent à la télévision, dans les chaînes satellitaires. Il y en a parmi eux. Chaque passage à la télé, il a un prix. C'est un coût. Et c'est lorsqu'ils se disputent et qu'il y a scission entre eux que les témoignages arrivent. Lui, il se prenait 8 000 $ par passage télé. Lui, 10 000 $ par passage télé. Ça, c'est... Voilà. Comme il y en a, il a dit, mais à ce prix-là, je pleure tout le temps, moi, devant la télé. Les gens, ils disent, ah, t'as vu, du quoi il parle, il pleure. Mais 10 000 $ qu'il attend derrière. Subhanallah. Non, Allahul Musta'an, la religion, comme... Subhanallah. Wallahi, c'est un désastre. C'est un désastre. Ces prêcheurs du faux qui veulent que les enfants des gens se détruisent, alors que eux ils font tout pour que leurs enfants n'y aillent pas. Wal'iyadu billah. Allahul Musta'an. Mais celui qui est aveuglé, tu ne peux rien pour lui. Il voit tout, mais il ne voit rien en vérité. Wallahul Musta'an. Et celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, nul ne pourra lui donner de lumière. Celui qu'Allah il égare, nul ne peut le guider. Et c'est pour cela qu'il faut se méfier. Il faut savoir qui sont les prêcheurs vers qui on retourne. Les gens sont à un stade, ils ne différencient même plus quelqu'un qui préside la prière avec un savant de la communauté. Ils ne différencient même pas celui qui raconte des histoires, des récits, avec quelqu'un qui enseigne l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ne font pas la différence. Alors que dans un hadith, le prophète sallam nous explique que la cause de l'égarement des enfants d'Israël, une des grandes causes, c'est lorsque leurs élites religieuses se sont mises à compter. C'est-à-dire à, au lieu d'enseigner la religion aux gens, il leur cite des contes, des histoires, des récits. Et vous verrez que beaucoup de gens de la masse, ils aiment les conteurs, n'est-ce pas? Ils aiment. Ça les fait pleurer. Oh, l'histoire, elle était touchante. On ne sait même pas si c'est vrai ou elle n'est pas vraie, l'histoire. Est-ce qu'elle a existé, elle n'a pas existé? L'essentiel, ça touche les cœurs, on va la raconter. Subhanallah. Et vous verrez, tous ces prêcheurs-là, hein, qui sont des conteurs, souvent ce sont eux, par leur biais, que ces jeunes se retrouvent dans les extrémismes. Ils ne sont pas protégés par la science religieuse. On ne leur apprend pas le tawhid, la sunna, le prêche des prophètes. C'est un problème. Mais puisque les gens jugent eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui décident. Je préfère m'asseoir auprès d'un tel. Je me sens mieux auprès d'un tel. Ma foi, elle augmente avec un tel. Et voilà. Donc, il ne veut pas. Donc quand tu vas lui dire, mais est-ce qu'il est dans le droit chemin ou pas, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Il n'a pas les bases de la religion. Et même certains, ils ont les bases, mais dans le vécu de tous les jours, ils les oublient. Ou ils les ignorent. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous préserve tous. Donc un des grands moyens pour lutter contre ce terrorisme présent chez certains musulmans, est de revenir vers les savants, connaisseurs du Coran et de la Sunna, avec la compréhension et la méthodologie des pieux prédécesseurs, pour qu'ils leur transmettent la bonne éducation. Sachez que les médias, généralement, d'une manière directe ou indirecte, participe et contribue à la propagation de ce fléau. Et ce n'est sûrement pas dedans que le musulman ou autre va trouver la bonne réponse à ces questions, l'apaisement et la guider. Donc pourquoi vous vous embêtez ? La personne du matin au soir, il est dans les infos. Ah, tu as vu ce qu'il raconte dans les infos ? Mais pourquoi tu perds ton temps dedans ? Je veux savoir ce qui se passe. 5 minutes, tu écoutes les infos, c'est fini, tu n'as pas besoin de plus. T'es quoi, c'est ton métier ? Non. T'as un travail à faire là-dessus ? Non. Donc pourquoi tu te fais du mal ? T'as vu ce qu'il a dit un tel ? T'as vu ce qu'elle a dit une telle ? Mais pourquoi tu écoutes ? Subhanallah. Dans toutes les époques, les prophètes ont eu des ennemis. Des gens qui parlaient en mal d'eux. Est-ce que les prophètes demandaient à leur peuple, allez écouter derrière les portes, qu'est-ce qui se dit ? Rapportez-moi qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas important. Subhanallah. Tout le monde parle. Après, chacun il aura des comptes à rendre dans sa tombe. Pour toute parole, rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Parole qu'elle soit minime, grandiose, il aura des comptes à rendre. Pourquoi vous perdez votre temps avec ça ? Si jamais tu n'as pas su quelqu'un à parler, t'as perdu quelque chose ? Mais Nefs, elle veut. Elle veut, il veut être au courant. Et celui qui est au courant de tout ce qui se dit, les gens, ils pensent qu'il a atteint un niveau. Depuis quand c'est atteindre un niveau d'être au courant de ce que disent les gens ? Dans quel texte il est parlé de cela ? Subhanallah. Et c'est plutôt le contraire. Il suffit à une personne d'être menteur, de répéter tout ce qu'elle entend. Subhanallah. Donc je ne vois pas l'utilité. Et surtout quand c'est des personnes faibles, sensibles, encore plus, ils devraient faire attention. Qu'il y ait quelques personnes qui ont une certaine compétence et qui ont un minimum de bagage religieux et qui écoutent ou lisent pour pouvoir réfuter, répondre, clarifier. Ça serait logique. Mais que tout le monde s'y mette et de propager ça. Regardez ce qu'un tel il a dit. Regardez une telle ce qu'elle a dit. Ils font peur ces gens-là. Ou les gens qui ne cherchent que les infos qui font peur. Ah, regardez un tel, il a dit qu'est-ce qu'il faut faire aux musulmans. Mais une personne, une pensée qu'il avait, il l'a dite, et toi tu la propages pour faire peur aux musulmans. De là où tu crois bien agir, mais en réalité tu agis en mal. En mal. Tu participes à affaiblir les personnes de la communauté. Ce n'est pas bon. Perdez pas votre temps. Ramenez des bonnes nouvelles. Subhanallah. Le musulman est quelqu'un qui ramène de la bonne annonce. Subhanallah. Il y a des convertis. Dans la mosquée, il y a eu un converti. Alhamdoulilah. Il y a une mosquée qui a été construite à tel endroit. Ramenez des bonnes nouvelles. Non, il y a des gens, ils sont abonnés aux mauvaises nouvelles. Comme des gens qui ne lisent dans un journal que les faits divers. Il y a eu un mort là, il y a eu un blessé là, il y a eu une attaque là, il ne faut plus sortir, il ne faut plus rien faire, et ainsi de suite. Voilà. Il y a des gens, ils sont comme ça. Voilà. Il y a des gens, ils vivent dans un pessimisme. Tout est noir pour eux, c'est sombre. Ça y est, c'est mort, c'est fini. Voilà. Là, c'est comme ça, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Subhanallah. Le prophète sallam, il dit, si quelqu'un, il a dans sa main une graine à planter, et l'heure, elle sonne, qu'il la plante. Quelqu'un pourrait se croire intelligent, mais à quoi ça sert ? L'heure, elle sonne, c'est fini, c'est la fin du monde. Le prophète sallam, il a dit, plante-la. La suite ne te regarde pas. Subhanallah. Et le prophète était quelqu'un d'optimiste. Avec tous les malheurs, tous les problèmes, tous les soucis qu'il y a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une sadaqa que tout le monde peut faire, c'est un sourire devant ton frère. Non, on doit montrer notre tristesse, ça y est, c'est mort, c'est fini. Il y a des gens, ils pensent que c'est ça l'islam. Ils pensent que c'est ça l'islam. Non, l'islam, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des calamités, que tu te permets de ne pas faire des sadaqas, qui est le sourire. Subhanallah. Et l'optimisme, un bon musulman est quelqu'un d'optimiste.
C'est mieux de voir les choses en bien, même si tu peux te tromper, que de voir les choses en mal. Mais d'être négatif, c'est pas un bon musulman n'est pas négatif. Une personne, elle craint quoi au final? Elle craint quoi au final? Je crains de mourir. Mais tu mourras bien un jour. On ne sait quand et on ne sait de quoi. N'est-ce pas? Donc tu crains quoi exactement? Subhanallah. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala t'est convaincu, tu as la certitude qu'il est avec toi, tu crains quoi? Donc la foi, il y a un problème. Donc le musulman doit faire attention. Donc ne vous amenez pas du mal. Déjà, on est touché par des maladies. Et qu'est-ce qu'on fait? On accentue ces maladies et on les augmente. Ça ne nous suffit pas. On croit se faire du bien et en réalité, on se fait du mal. On se fait du mal. Donc, les médias, d'un point de vue général, il faut s'en éloigner. Quelques personnes qui ont une certaine compétence, qui ont du métier, qui ont de la connaissance, qui ont cette capacité, s'ils veulent regarder, vérifier, prendre ce qu'il y a à prendre, ça c'est eux. Le reste, vous n'en avez pas besoin. Faites votre vie, vivez. Bah, vous n'en avez pas besoin. Quelqu'un dit, je veux écouter les infos. Les infos, tu les écoutes. 5 minutes, tu as les grands points de l'info, tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin. Non, il y a une alerte, il y a une urgence là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Il veut savoir. Les infos, ils se terminent. Non, il y a encore les infos qui reviennent. Interminable. Allahu musta'an. Le grand savant, le cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, le grand savant et le grand muhaddith du Yémen, rahimahullah, a dit, s'agissant de la presse et de la télévision, nous conseillons de s'en tenir éloignés. Il est bien rare de trouver une revue ou un journal qui véhicule la vérité. Il a tout résumé. Le grand savant, le cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, Hafizahullah, a dit, les actes criminels commis contre les innocents, les explosions et tous les actes destructeurs sont formellement interdits en islam. De plus, ils engendrent des conséquences nuisibles aux intérêts des musulmans. Sachez que ces crimes odieux ne sont nullement fondés sur les principes de l'islam ni sur ses enseignements. Au contraire, l'islam attribue un caractère sacré aux vies humaines, musulmanes ou pas, vivant en paix et en harmonie. De ce fait, il ne faut pas se laisser entraîner vers des jugements ou des agissements injustes qui consistent à faire endosser la responsabilité de ces actes terroristes intolérables à ceux qui en sont innocents. Le cheikh Mohamed Saïd Raslan, hafidhahullah ta'ala, un grand cheikh d'Égypte qui est dans la ville de Manoufiya, hafidhahullah ta'ala, a dit, dans notre religion, il n'est pas permis de torturer un animal, ni même d'abattre un animal devant un autre animal. Et viennent ceux qui prétendent appartenir à notre religion, égorgent des humains, mutilent les cadavres, publient cela au vu de la terre entière et attribuent ces méfaits au grand islam. Allahu musta'an. Le grand savant, le cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, il nomme ces massacres djihad dans le sentier d'Allah. Ils ont menti. Par Allah, c'est un djihad dans le sentier du diable.
وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.